Voilà, donc aujourd'hui, on est, voilà, je suis très heureux de recevoir Jacqueline Carrois, donc collègue et amie d'école du centre Colliré, donc spécialiste d'histoire des sciences, histoire des sciences de la psyché en particulier, pour dire les choses extrêmement vite. Et qui nous avait déjà fait l'amitié de venir lors d'un 8-9 des hautes études, lors de la sortie de son livre aux éditions d'école, son histoire, une histoire des rêves, donc qui allait de début du 19e à la fin de la deuxième guerre mondiale et qui était paru en 2012. Voilà, et aujourd'hui, Jacqueline va nous parler donc d'un des aspects de son travail sur l'activité onirique, hein, essentiellement des gens du 19e siècle et du début du 20e siècle, donc autour du thème donc garder trace des rêves, une approche historique, et c'est un travail, j'adore le travail de Jacqueline, c'est un travail absolument fascinant, et ça sera notre avant-dernière séance pour ce cycle, hein, puisque le 30 novembre, donc on recevra pour finir Béatrice Frankel, trace et traçabilité, qui n'avait pas pu venir parce qu'elle avait eu un très grave accident route, la circulation, mais là elle est rétablie, en tout cas à peu près rétablie, et elle pourra donc venir nous exposer son travail sur la trace, sur le tag, etc., notamment ce qu'elle avait travaillé particulièrement après le 11 septembre à New York, donc la question de la trace graphique, au fond, après des événements donc comme ça, qui avaient percuté la société américaine. C'est la parole, Jean-Christophe, voilà, et pour... d'ailleurs, si tu veux, et puis voilà, une petite discussion après, un verre de champagne pour ceux qui ont la possibilité, et on aura comme ça bien rempli notre soirée. C'est à toi.
Eh bien, merci beaucoup, je suis dans un lieu de rêve ici.
C'est vraiment tout à fait
agréable. Alors, vous avez deux feuilles qu'on a distribuées là, parce que je me suis dit que c'était bien que vous ayez une petite idée, au fond, de ce dont je vais vous parler. Et en préparant cet exposé, j'ai lu, donc ça c'est des, vous allez avoir des textes du 1900-1904, hein, vous voyez. Et en fait, en préparant cet exposé, je me suis aperçue que, en fait, eh bien, je lisais des articles cette fois-ci tout à fait récents de neurobiologistes, eh bien, on se pose des questions très analogues et on pourra en reparler. La question, donc, au fond, de la mémoire du rêve et de comment est-ce qu'on rencontre des rêves. Je vous rappelle que, en fait, par exemple, des questions qui se posaient au 19e siècle, qui étaient, est-ce qu'on rêve toute la nuit? Est-ce qu'on rêve tout le temps? Elles se posent de nouveau maintenant, parce qu'à un moment, on a cru... du temps de Jouvet, qu'on ne rêvait que pendant le sommeil paradoxal. C'était simple, hein, on avait un état de sommeil et puis on avait des rêves. Or, en fait, on rêve tout le temps, ou en tous les cas, on peut faire cette hypothèse-là. Je lisais donc des articles de Perrine Ruby et de Sophie Schwartz, qui sont donc des chercheuses dans des laboratoires du sommeil, et un certain nombre de choses, de points se posent. Et aussi, une autre question, c'est au fond, on ne parle des rêves dans ce type de recherche qu'à partir de témoignages. On n'a pas, comment dire, on peut évidemment voir dans ces laboratoires du sommeil quelles zones du cerveau sont activées, mais au fond, ça ne nous dit pas s'il y a rêve, et là, il faut le témoignage du sujet qu'on réveille. Donc, on est dans un moment, là, au 19e siècle, où donc c'est des philosophes, il y a des médecins, il y a des amateurs de rêves, qui essayent d'étudier le rêve sur eux-mêmes et sur autrui. Et on est finalement dans des problèmes qui sont assez proches de ceux qu'évoque Henri Delacroix. Alors, je vous ai donné... juste une petite feuille avec juste, vous voyez, n'est-ce pas, le cachet de la bibliothèque Victor Cousin, qui est donc une bibliothèque de philosophes de la Sorbonne. Bon. Et donc c'est un extrait d'une liasse de notes qui ont été laissées à la Sorbonne par le philosophe Henri Delacroix, Donc, je vous donne ces dates, 1873-1937. Et donc, Delacroix, c'est un philosophe. Donc, au moment où il écrit ses notes, il est maître de conférence à Montpellier. Il a déjà passé une thèse sur l'histoire de la mystique allemande. C'est un germaniste, c'est important parce que on va voir notamment son rapport à Freud. Il a laissé à Victor Cousin, il y a une liasse de notes. Alors, dans cette liasse, il y a à la fois la transcription de quelques-uns de ses rêves, mais aussi des notes sur des livres qu'il a écrits. Et toutes ces notes, donc c'était des notes de travail, elles ont abouti donc à un article qui a été publié en 1904 dans la Revue de métaphysique et de morale, qui est l'une des deux grandes revues de philosophie de l'époque. Il y a la Revue philosophique et la Revue de métaphysique et de morale. Je reviendrai donc un peu sur le contexte de je vais peut-être revenir sur le contexte historique donc de cela, enfin plus généralement. Je vais rappeler très très brièvement que c'est au XIXe siècle que s'élabore le projet d'une science des rêves qui étudierait les rêves, exemple à l'appui. Alors, donc, il y a donc des hommes qui sont des savants, c'est essentiellement des hommes. Et justement, là, dans les textes que je vais donner, vous allez voir une conversation de Henri de la Croix avec la femme d'un de ses collègues, qui est le mathématicien Gaston Millau. Donc, c'est le rêve du 4 décembre, enfin, l'Einol du 4 décembre 1904. Donc, ces hommes vont participer d'un mouvement savant ou scientifique qui donc parcourt tout le 19e siècle, et il s'agit d'arracher les rêves aux superstitions pour en faire des faits et des faits psychologiques. Les arracher aux superstitions, donc cela veut dire au fond que les rêves ne soient plus prémonitoires. Mais il faut se démarquer à ce moment-là de la tradition de l'Antiquité, notamment, hein, qui est toujours citée hein, par certains aliénistes, par exemple du XIXe siècle. Et puis, d'autre part, il faut se différencier, se démarquer des clés des songes, ce qu'on appelle les clés des songes, donc qui sont des petits livres alphabétiques, c'est des petits dictionnaires alphabétiques dans lesquels vous avez des rubriques. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez la rubrique « chat » ou « chien », et puis vous lisez, vous avez rêvé de chat, et à ce moment-là, vous lisez, puis vous voyez ce que ça présage. Et alors, on a un témoignage assez drôle d'un savant de l'époque, Alfred Maury, qui explique que dans les rues du Paris de sa jeunesse, il y avait des colporteurs qui criaient « Avez-vous rêvé de chien ? Avez-vous rêvé de chat ?» et qui vendaient des petites clés des songes aux gens dans la rue. Donc, alors, ces clés des songes, elles ont en fait il y a une très longue tradition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ça vient de l'Antiquité, d'un certain Artémidore, donc Artémidore d'Éphèse ou de Daldis, donc dont le texte, c'est vraiment. Les traductions d'Artémidore se sont répandues dans toute l'Europe. Via Byzance, enfin je ne vais pas parler de tout cela, mais ce qui est important, c'est que la tradition d'Artémidore s'est poursuivie dans ses clés d'échange, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Mais par exemple, au XIXe siècle, vous pouvez avoir des clés d'échange dans lesquelles il y a la rubrique décollation, donc qui vient d'Artémidore, mais vous avez aussi une rubrique échafaud qui vient évidemment, et guillotine qui vient évidemment pas d'Artémidore. Donc voilà. Et, certes. Donc il s'agit au fond de récolter de nouveaux exemples, parce que il y a beaucoup d'anecdotes aussi sur des prédictions, etc., qui viennent de l'Antiquité. Donc il s'agit de récolter de nouveaux exemples, il s'agit de récolter des faits sur soi-même. Et il s'agit au fond de convertir ces faits en exemples. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein, ce n'est pas la même chose que de recueillir le rêve au matin et d'en faire un exemple. il faut quand même le publier. Et donc, quand le fait que ce soit publiable pose des questions. Alors, j'en arrive maintenant à... Donc, peut-être pourrais-je juste citer un livre classique qui date de 1861, qui est vraiment le grand livre classique sur les rêves, donc le livre d'Alfred Maury qui s'intitule « Le sommeil et les rêves » et qui est vraiment toujours cité. Au fond, il a le statut qu'actuellement pourrait avoir Freud. C'est pas du tout la même chose que dit Alfred Maury, mais ça pourrait être ça. Donc, alors, pour expliquer le fait que Delacroix envisage de publier dans la revue de métaphysique et de morale, il faut rappeler que fin 1894, en 1894-1895, dans la revue concurrente de la revue de métaphysique et de morale, c'est-à-dire la revue philosophique, il y a eu tout un feuilleton où des philosophes ont observé leurs rêves. Et qu'est-ce qui était en jeu dans ce feuilleton? C'était une question extrêmement intéressante. Ça partait d'un rêve de Maury, un rêve de guillotine. Maury raconte qu'il se voit guillotiné donc, et jugé par Fouquier-Tinville, etc. Donc il se voit d'abord jugé, ensuite guillotiné, pardon. et ensuite, donc, il y a la flèche de son lit qui lui tombe sur le cou et donc c'est la sensation qui aurait déclenché le rêve de guillotine. Or, le récit de Maury est très cohérent, hein, et la revue philosophique lance, par l'intermédiaire d'un poète, donc c'est un poète qui est maintenant peu connu, il dit « ce rêve, c'est pas possible, en fait, c'est un rêve qui a été retravaillé, c'est devenu une fiction, c'est un rêve trop beau, trop cohérent ». Et s'engage à ce moment-là dans la revue philosophique toute une controverse où des philosophes très connus du temps, on pourrait citer Paul Tannery, Victor Heger, etc., citent leurs rêves et essayent de comparer donc, en disant voilà, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on peut faire? Et ça aboutit donc à un article de Victor Heger qui pose la question de l'écriture du rêve. C'est un problème donc très important, c'est-à-dire que lui dit en fait, si on observe finement le rêve, on ne peut pas l'écrire comme un roman, comme une fiction, comme l'a fait un peu Maury. Et en fait, on a une succession de tableaux, on a des images visuelles, on a des choses qu'on entend, enfin, et donc c'est une espèce de magma en quelque sorte. Et pour Victor Heger, le rêve est en fait une succession de tableaux, ou même des tableaux simultanés en tous les cas. Il faut déconstruire en quelque sorte l'aspect narratif du rêve, si on le disait en termes actuels. Ce qui évidemment va amener à noter autrement le rêve. Et oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que Heger rapporte que le rêve de Maury, pour lui, le rêve de Maury, le rêve de la guillotine, ça aurait été un rêve que Maury aurait raconté, et à force de le raconter, il l'aurait modifié, et il en aurait fait donc une sorte de fiction, et il le dit d'autant plus qu'il est le fils d'Émile Heger, qui était un ami de Maury. Donc voilà, mais enfin bon, ça c'est pour l'anecdote. Ce qui est intéressant, c'est que donc, pour lui, il fait aussi un lien avec un rêve dans La Cousine Bête de Balzac. Et pour lui, oui, parce que c'est le même rêve. C'est un rêve de guillotine. Mais il y en a beaucoup au 19e siècle. En tous les cas, mais oui, c'est quelque chose qui avait la guillotine, c'est quelque chose qui a complètement frappé les gens. Et donc
c'est le cas de le dire.
Voilà, c'est le cas de le dire. Et donc, en fait il se pose la question, est-ce que c'est Maury qui a influencé Balzac pour écrire le rêve de la cousine bête, ou est-ce que c'est Balzac qui aurait influencé Maury pour redire ce rêve? Vous voyez qu'ici se pose la question à la fois de qu'est-ce que c'est que le rêve tel qu'il est vécu, hein, comment le saisir au plus près, et D'autre part, comment le rêve peut-il être en quelque sorte devenir une fiction, la base d'une fiction, et à force d'être raconté? Alors, il y a aussi un autre problème qui se joue, je crois, entre Heger et le poète Le Lorrain. Le Lorrain propose des récits qui, eux, sont extrêmement littéraires et qui sont inspirés de Huysmans. Donc, c'est des récits de rêve qu'il propose. Donc, qu'est-ce qui est le vrai rêve, au fond? Est-ce que c'est celui qui est, je dirais, fictionnalisé, ou celui qui est extrêmement, épuré, écrit en style télégraphique, daté, etc. Alors, en fait, là, on a... donc, dans ce recueil de rêves, on a vraiment... quelque chose qui est du coup un rêve saisi au réveil, hein, avec des dates, vous voyez, donc c'est méthodique, hein. Et alors je vais reprendre avec vous un petit peu ces différents récits. Et d'autre part qui renvoie aussi, je dirais, à des éléments de la veille assez précis. J'en évoquerai quelques-uns. Alors, je reprends par exemple le rêve du 4 mai 99. Hein. Donc c'est le premier. Enfin, il y en a d'autres. Il n'y en a pas énormément d'autres, hein, dans les notes, mais enfin, j'en ai pris que quelques-uns, bien entendu. Donc dans ce rêve du 4 mai 1899, donc, on a, vous voyez, des notations discontinues au vol, et j'ai respecté la typographie. Donc, vous voyez, il y a marqué rêve, rêverie. Alors, là aussi, ça c'est. On ne sait pas trop si c'est un rêve ou une rêverie. C'est encore un problème. Rêver course. Après avoir lu dans la journée, pensez à y aller. En particulier, rêver du journal, la cote des courses, en particulier, après avoir rencontré R. Alors là, je n'ai pas pu déchiffrer. À Auteuil. Il m'en signale les avantages. Rêver que j'achète ce journal. Le journal que je me trouve avoir en main ne répond pas à ce que je sais du journal. En particulier, ne contient pas les pronostics que je sais y être indiqués comme disponible. Couleur rose au lieu de blanche. Le rêve disparaît. Vous voyez l'espèce de... Ce qui peut être un rêve ou une rêverie. Et c'est important parce que dans son article, Delacroix va comparer le rêve et la rêverie. Il les assimilera beaucoup. Alors, vous avez ensuite, vous voyez, une notation au vol, disons une petite théorie du rêve qui s'amorce là, donc toujours le même jour, avec, il avait mis un petit trait en dessous, hein, c'est pour ça que j'ai mis le trait. Dans le rêve, les éléments s'appellent et s'associent. Mais, alors, certaines difficultés, il a, moi je l'ai mis en italique, mais il l'a souligné, hein, à s'organiser. Nombreux exemples où l'image provoquée ne répond pas à ce qu'on attend d'elle, au désir et au fait qui l'ont provoquée. Cause de disparition de cette image par difficulté d'organisation, d'autres éléments étant présents qui tentent à apparaître, formation d'un nouveau groupement. Dans la rêverie, certaines aisances d'organisation, peut-être à la base d'une certaine tonalité émotionnelle qui pénètre, ordonne et maintient les images et qui ferait en partie défaut dans le rêve. Et tous ces éléments-là, on les retrouvera dans l'article, si vous voulez, c'est-à-dire le rêve donc comme organisation. Enfin, mais organisation partielle, enfin, voilà, le rapport du rêve et de la rêverie, et l'émotion et le désir qui est dans le rêve. On trouve tous ces termes-là. Alors, j'en arrive maintenant au deuxième rêve, enfin, au deuxième exemple que je vous ai donné, donc l'exemple du 29 décembre 1900. Et alors, pourquoi je vous ai donné la photocopie, c'est parce que vous allez voir apparaître un petit style, un petit dessin qui peut-être nous renverrait ici à ce qu'on appelle l'onéromos. Donc c'est un terme grec dans la médecine grecque qu'on en retrouve chez les médecins. L'onéromos, c'est le rêve érotique. Hein, c'est le... Donc, et qu'on retrouve, thème qu'on retrouve alors bien sûr dans les traités de théologie morale et puis aussi dans les traités de médecine, donc c'est pollution nocturne dans les traités de théologie morale et spermatorée dans les traités de médecine. Alors, je reprends ce texte donc, du 29 décembre 1960 que je vous ai donné le... Donc, vers 7h30 du matin, rêvé que je me rendais à un banquet de philosophes où devait se trouver Belot. La veille au soir, un article de l'Aurore où Lachelier était éreinté et où Belot était mentionné, reçu 2 jours avant une invitation de Léon à un dîner de philosophes. J'étais sur le... Alors, donc, peut-être que là, il faut expliquer. Hein.
Donc, c'est Lachelier, Belot.
Comment ?
Léon, c'est Lachelier ou Léon Belot ?
Non, c'est Xavier Léon. C'est Xavier Léon. Et alors, j'ai regardé dans l'Aurore, donc c'est l'Aurore du 27... du 27 décembre, j'ai retrouvé donc l'article de l'Aurore. Et en fait, voilà, l'Aurore, je vous rappelle que c'est le journal de Clémenceau. Hein. Et donc, dans Lachelier, donc, qui était un inspecteur général de philosophie très influent, très puissant, donc, prend sa retraite. Il est remplacé par Darlu. Et surtout, il est question de lui offrir pour sa retraite une œuvre d'art. Et l'Aurore se moque de cela en disant « Mais il nous a assez fait suer, ce clérical-là. En plus de ça, il faudra lui offrir... » Enfin, ça va être du cadeau forcé pour Lachelier. Donc, il y a un article très virulent dans l'Aurore qui donc, revient ici. Et vous voyez que donc, la Delacroix lit l'Aurore, probablement. Et donc, voilà. Et donc, Xavier Léon, je vous le rappelle, c'est le directeur de la Revue de Métaphysique et de Morale. Voilà. Donc, on en arrive à ce... Alors, vous le voyez, j'étais... Donc, j'étais sur un chemin mirandant et préparais quelques paroles à lui adresser. J'ai laissé hein, les abréviations. Je me voyais très bien moi-même, manteau d'été gris, donc l'autoscopie dans le rêve, hein, manteau d'été gris, chapeau mou marron, une canne bizarre, c'est pour ça qu'il parlait de canne, et vous l'avez là, la canne, à la main.
Hein. Ici, oui.
Voilà. Il pleuvait et je me sentais légèrement mouillée. Ah. Donc voilà, et le dessin de la canne voilà. Donc c'est pas très. Mais souvent dans les journaux du 19e siècle, par exemple Amiel note, ils ont des signes pour noter leur rêve érotique. On a ça aussi dans le journal de Saussure, pas Ferdinand, mais celui qui est monté au Mont-Blanc. Je ne sais plus comment il s'appelait. Je me suis demandé que si ce n'était pas là une référence discrète à onéromos, ce que la médecine grecque appelait onéromos. À mesure que je marchais, j'entendais des pas très sonores dans mon escalier, mal localisé. J'arrive à une sorte de porte, et j'entends frapper, sans avoir la perception que ce fut moi qui eus frappé. Au bout d'un instant, je pense que c'est ma bonne, et je crie entrer. Donc vous voyez, c'est un rêve de réveil. Hein. Et alors, ce qui intéresse là, Delacroix, c'est que en fait, il n'y a pas totalement incorporation de la sensation du réveil, comme dans le rêve de la guillotine, mais qu'en fait il y a deux séries qui coexistent en quelque sorte. Vous voyez que c'est très très fin comme analyse. Il y a deux séries qui coexistent et donc il y a à la fois le fait qu'il se rend au dîner de philosophes et puis donc la porte et là le rêve bifurque et à ce moment-là il crie, il dit à sa pote bonne entrée, la bonne qui est chargée de le réveiller. Ainsi, le bruit perçu n'est pas absolument incorporé au rêve. Peut-être suscite-t-il l'image de la porte, petite porte de côté, très accessoire, qui se présente alors tout à coup à mes yeux dans le bâtiment. Je n'ai pas besoin d'un second bruit pour me réveiller et savoir ce que c'est. Il y a une sorte de simultanéité entre les images de mon rêve et les images réelles perçues. Les deux séries s'entrelacent. Le bruit perçu en rêve me réveille. Donc, c'est une sorte de moment intermédiaire entre le rêve et puis le bruit, et le rêve s'incorporant le bruit, mais il y a une sorte de différence. Alors, j'en arrive maintenant donc au rêve du 18-19 février. Vous voyez, il note bien « noter le 20 février au matin ». Donc, il s'agit de faire des notations méthodiques. Quelques instants après m'être mis au lit, hallucination hypnagogique de chute, causée par une image visuelle. Alors, l'hallucination hypnagogique, c'est donc un terme qui vient de Maury, et c'est les hallucinations qu'on aurait avant de s'endormir. Donc, quelques instants après m'être mis au lit, je passe devant la faculté de médecine et descends la petite rampe qui mène à la cathédrale. Alors, si vous êtes allé à Montpellier, vous verrez très bien cette rampe. Alors, quand je suis allée à Montpellier il y a quelques temps, je me suis dit, mais où est là cette rampe? Et puis, je l'ai vue. C'est une ville très, très en pente, Montpellier. Notre perception visuelle de tout cela. Je me sens glisser en avant. Je fais un soubresaut de tout le corps qui me réveille. Donc là, c'est juste une petite hallucination. Conscience très nette que l'image visuelle a précédé le mouvement. De plus, je me réveille avant que le mouvement soit même terminé. Je suis passée par ce chemin dans la journée. Était de la bibliothèque de la faculté de médecine à celle de la faculté de lettres pour y lire l'article de Delage. Ce rêve cadre bien, presque trop bien. N'y aurait-il pas eu un peu d'autosuggestion avec la théorie de Delage? Vous voyez que là, c'est ce qui se pose, c'est toujours la question. Alors, Delage, c'est donc un auteur qui soutient que les rêves reposent sur des éléments de la veille peu importants, insignifiants. Par exemple, il dit que quand on a un deuil, eh bien en fait, on ne rêve jamais de la personne morte, on rêve d'éléments insignifiants. C'est l'exemple de l'âge. Donc, ce rêve cadre très bien, presque trop bien. Évidemment, se pose toujours la question de la reconstruction du rêve dans ce qu'il appelle l'autosuggestion. Aurais-je remarqué sur la rampe un peu roide une pierre? Par exemple, il me semble vaguement que dans mon rêve, c'est une pierre qui m'a fait tomber. Vérifiez qu'il y en aurait une. Pensez à un moment à une chute possible. Et le rêve n'aurait-il fait que réaliser cette pensée ébauchée? Vérification négative. Vous voyez qu'il est allé vérifier s'il y avait effectivement une pierre qui aurait pu lui faire penser dans la journée à cela. Plus tard dans la nuit, donc, une seconde séquence. Vers 3 heures, réveil pénible, avec le sentiment très confus et mal retenu d'une difficulté intellectuelle à vaincre. Ai retenu qu'il s'agissait de la douleur, peut-être d'une revue ou chercher un article. Cette douleur au réveil se continue et se précise en colique. Donc là, on est effectivement dans un autre registre qui n'est plus celui de la perception extérieure qui se transforme en rêve, mais celui des messages du corps qui suscite des rêves, donc thème aussi qui est évidemment très, très classique dans toutes ces histoires des rêves au 19e siècle. Alors, j'en arrive maintenant donc à la dernière note qui date du 4 décembre 1904 et elle me paraît intéressante car elle... Voilà. Elle me paraît intéressante parce que elle nous renvoie au fond au rêve comme objet de conversation. Delacroix, sans doute après avoir publié son article, puisque je vous rappelle qu'il publie son article en 1904 dans la revue de métaphysique et de morale, donc ça date de décembre, donc probablement. La revue de métaphysique et de morale, il n'y a pas de date, il y a juste les années. C'est pour ça que, enfin, à mon avis, ça pourrait très bien être, disons, Madame Millot, il discute avec Madame Millot, donc femme de son collègue mathématicien, et elle a lu son article où il parle de son article, et à ce moment-là, elle lui parle de ses rêves, ce qui arrive très, très souvent sur les rêves, on en parle. Dès qu'on parle des rêves, on parle de ses rêves et on parle avec les autres de la manière dont ils rêvent, etc. Et là, effectivement, il prend au vol, en quelque sorte, des notes sur Madame Millot. Elle a plusieurs types de rêves dont elle ne s'écarte presque jamais. Est dans la mer et ne peut atteindre le rivage. Est dans un beau pays, belle fleur, beau fruit qu'elle ne peut atteindre. Mange des quantités de gâteaux. Cauchemar. Son mari ou son frère a tué quelqu'un. Et elle est occupée à cacher le cadavre. Rêve anxieux en somme. Autrefois, quand elle nourrissait, donc quand elle allaitait, rêvait qu'elle était en retard pour nourrir. Rêve net, bref, cohérent. Donc vous voyez là, le rêve qui devient un objet d'échange, un objet de conversation, et que Delacroix intègre dans ses notes scientifiques. Alors, après, je vais vous parler de l'article, puisque là, au fond, je vous ai donné quelques transcriptions. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est assez rare qu'on ait des témoignages de femmes sur leurs rêves dans ces textes scientifiques. C'est-à-dire qu'autant il y a beaucoup de femmes dans les rêves de ces hommes, des personnages de rêves, autant certains même se posent la question, au fond, à quoi rêvent-elles ? Et donc je pense que je pense que ça excite en quelque sorte l'intérêt de Delacroix de discuter avec Madame Millot, et aussitôt il le note. Alors maintenant j'en arrive à l'article que Delacroix tire de ce alors je vais peut-être le reprendre, je l'ai apporté ici l'article, voilà. L'article, donc, c'est en 1904 et ça s'intitule « Sur la structure logique du rêve ». Alors, c'est un article qui a la particularité de ne prendre aucun exemple de rêve. C'est-à-dire que tout ce qu'on a lu là, en fait, Delacroix ne l'a pas utilisé dans l'article. Et ça, c'est plutôt rare par rapport aux standards scientifiques de l'époque. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait un article sur les rêves, on cite ses propres rêves, ou on cite d'autres des exemples de rêves classiques, etc. Donc là, lui n'en cite aucun. C'est-à-dire qu'il a laissé de côté toute cette documentation. Alors, on pourrait se poser la question, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'il dit dans pour le moment, je voudrais essayer de reprendre cet article. Alors, Delacroix donc, va plutôt essayer de faire une généralisation par rapport aux rêves. Et donc, il va distinguer plusieurs types de rêves. Et là, il s'appuie sur Freud. Donc, non seulement sur l'interprétation du rêve de Freud, mais aussi sur un petit livre de vulgarisation que Freud a publié en 1901. Je vous rappelle que l'interprétation du rêve est publiée en 1900. Enfin non, d'ailleurs, fin 1899, mais daté de 1900. Et Freud fait ensuite un petit livre de vulgarisation qui s'appelle « Sur le rêve ». Et donc, Delacroix, là, lui, c'est un lecteur germaniste de Freud. Parce que je vous rappelle que l'interprétation du rêve ne sera traduite que dans l'entre-deux-guerres. Alors... donc là, Delacroix reprend classification de Freud dans Sur le rêve, donc le texte de 1901, donc, où Freud distingue des rêves cohérents et sensés, des rêves cohérents mais non sensés, des rêves incohérents mais dont on sent qu'ils ont un sens, dans lesquels se croisent plusieurs courants de pensée. Et ces rêves-là sont comparés à des rébus. Alors, à la fois chez Freud et chez Delacroix. Je me rappelle que à l'époque, les journaux comportent des rébus, hein, un petit peu comme les mots croisés, c'est-à-dire que des rébus quelquefois très très difficiles. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu des rébus du 19e siècle, mais moi, j'arrive pas souvent à les décrypter. Alors, donc Delacroix et ensuite il dit, il y a les rêves incohérents et changeants, il y a les rêves incohérents mais qui ont une sorte de nœud, enfin, il y a un nœud d'association d'idées, il y a ceux qui sont incohérents et changeants, et enfin il y a ceux qui sont franchement incohérents. Et dans cette classification, donc, il cite Freud, bien entendu, donc, et il va au fond à la fois s'appuyer sur Freud à certains égards, et en même temps le critiquer, car pour lui, au fond, Freud est peut-être trop ingénieux dans sa manière de voir les choses. Néanmoins, il me semble que il retient de Freud, au fond, l'idée que à l'origine des rêves, il y a un désir, il y a quelque chose qui serait de l'ordre soit d'un désir, soit d'une peur, en tous les cas, quelque chose qui serait de l'ordre de l'affectif à partir des rêves. Donc, ce que je voudrais donc ici me poser comme question, c'est au fond pourquoi Delacroix, Freud cite ses propres rêves hein, dans l'interprétation du rêve, et Dieu sait si hein, ses rêves ont donné lieu à interprétation et à réinterprétation. Et au fond, là, au contraire, Delacroix ne cite aucun rêve. Et alors, ça va plutôt à l'encontre des standards scientifiques de l'époque, mais il me semble que, en réalité, c'est assez délibéré, parce qu'il aurait très bien pu, par exemple, reprendre certains de ses rêves et un peu les simplifier, les anonymiser, enlever des noms. Par exemple, il n'aurait pas mis le nom de... Enfin, il n'aurait pas mis un certain nombre de noms qui peuvent apparaître dans ses récits de rêves. Là, en fait, il aurait pu aussi enlever des détails trop triviaux, trop intimes. Comme le fait Freud lui-même, hein, d'ailleurs, puisque Freud ne va pas jusqu'au bout dans l'interprétation du rêve de l'injection faite à Irma. Il dit à un moment, je m'arrête, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je veux pas, c'est trop intime en quelque sorte. Le choix de Delacroix, donc, est plus radical parce que, au fond, il cherche à faire quelque chose qui il lui semblerait peut-être que s'il donnait des exemples de ses rêves, enfin c'est l'hypothèse que je fais, s'il donnait des exemples de ses rêves, au fond il donnerait comme modèle ce qui ne peut pas être pris comme modèle parce que au fond les rêves sont extrêmement variés selon les individus. Et donc, alors je reprends une petite note qui me paraît, dans son article qui s'intitule « Sur la structure logique du rêve », donc qui est lié aux notes que je vous ai données. Alors, voilà. « L'étude méthodique des rêves montrera, croyons-nous, de plus en plus qu'il y a différentes façons de rêver et différents types de rêveurs, que de formes intermédiaires entre le rêve, pure reproduction d'obscurs souvenirs du jour, ou maigre interprétation d'une sensation et les grands rêves imaginatifs. Que de degrés depuis celui qui ne rêve pas jusqu'à un Hervé de Saint-Denis. » Alors Hervé de Saint-Denis, c'est donc l'un des grands auteurs sur les rêves du 19e siècle. Alors, on peut se poser la question, est-ce que finalement Delacroix s'est jugé comme un piètre rêveur, si j'ose dire, un rêveur pas tellement intéressant, et que du coup, par rapport à Hervé de Saint-Denis, qui a des rêves évidemment beaucoup plus somptueux hein, dans son expression, est-ce qu'aussi il ne pense pas que finalement donner ses rêves en exemple induire une généralisation des généralisations par rapport au fond à ce qui devrait rester plutôt non différencié. Enfin, voilà. Donc, au fond, il faudrait peut-être passer des rêves individuels à ceux d'autrui, et c'est ce qu'il fait peut-être avec justement le rêve de Balamillou. Et il faudrait, au fond, peut-être que cette note sur Madame Millot, ça voudrait dire, voilà quelqu'un qui rêve différemment de moi, et est-ce que je peux donc faire des généralistes à partir de tout cela. Donc, Le rêve, là, citer des exemples de rêves pourrait, au fond, être périlleux. C'est peut-être pourquoi, au fond, Delacroix ne donne pas d'exemple de ses rêves, alors que c'est plutôt un standard scientifique à l'époque que de donner des exemples de rêves, de ses propres rêves. Donc, on peut supposer que, voilà, la question qui se pose au fond, à ce moment-là, c'est celle de la validité des notations de rêves, hein, de la généralisation des notations de rêves, et on peut dire au fond que Delacroix essaye de généraliser sans donner d'exemple pour justement éviter que, en quelque sorte, on se polarise sur les exemples, pour le dire un peu comme cela. Enfin, je me suis posé cette question parce que effectivement, il a noté ses rêves et il le dit, il y fait allusion dans son article. Hein, donc, il n'est pas du tout, il a tenu son petit carnet de rêves, ce qui se faisait à l'époque. Hein, chez les philosophes, mais il a en quelque sorte laissé de côté ce carnet de rêves. Alors, est-ce que aussi la question qui se posait à lui était la question de d'écriture des rêves, c'est-à-dire comment peut-on écrire ce phénomène? Parce que il y a à l'époque dans la revue philosophique, alors pas dans la revue métaphysique et le moral, mais dans la revue philosophique, tout un débat justement sur comment écrire les rêves, comment les écrire. Et donc, qu'est-ce qui est le bon rendu des rêves? Comment faire en sorte qu'il renvoie à cette réalité fuyante et évidemment indocile, qui est à la fois une réalité totalement privée, et dès qu'on l'écrit, elle est sociale. Elle est une trace, elle est sociale, et elle, même si c'est par rapport à soi-même, en quelque sorte. Voilà. Donc, j'ai essayé de reprendre un peu cette question à partir de cet exemple des notes de Delacroix qu'on trouve donc à la bibliothèque Victor Cousin, à la Sorbonne. C'est un peu étonnant. Voilà.
Merci beaucoup, Jacqueline, pour ces aperçus. C'est vraiment toujours très, très fascinant d'entrer dans ce monde-là. Et on va peut-être poser quelques questions, il n'est pas encore trop tard. Ce qui me frappe beaucoup, moi, personnellement, je ne sais pas si ça frappe d'autres autour de la table, c'est au fond l'énergie mise par ces philosophes, par d'autres, etc. Cette énergie mise à collecter l'information, à écrire, à réfléchir, cet effort, au fond, hein, cet effort qui est au fond un effort aussi en termes d'interprétation de l'activité de la psyché, mais c'est en même temps, il y a une dimension effectivement de sciences sociales, cet effort. Et quand est-ce qu'au fond cet effort a... Quand est-ce que cet effort a cessé? Aujourd'hui, je connais personne qui note ses rêves. Alors, formidable. C'est merveilleux, mais j'ai l'impression que ça a quitté quand même globalement le mirage. Je me trompe peut-être complètement. Vous notez vos rêves?
Oui.
C'est formidable.
Pas systématiquement.
Moi j'avais l'impression qu'après les surréalistes ça n'avait plus intéressé personne, c'est-à-dire que on était passé dans le monde des neurologues et que voilà, c'était...
Mais Jouvel et Notel aussi.
Jouvel.
C'est-à-dire que même les neurologues notent leurs rêves. Ouais. Enfin, c'est pas tous, hein, je sais pas.
Mais ça me paraît assez logique, d'un point de vue professionnel, ça me paraît assez logique. Et dans la dimension, est-ce qu'on peut te ramener un petit peu sur la dimension politique, moi, qui m'intéresse beaucoup, bien sûr, cette présence de la guillotine en rêve du 19e qui montre quand même le poids de la Révolution française et de la Terreur, dans le souvenir historique sur un siècle, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que tu penses d'un point de vue politique, il y a comme ça d'autres grands événements qui ont continué à diffuser dans l'activité onirique des contemporains très longtemps après que ces événements soient advenus. Voilà. En t'écoutant, d'un seul coup, je repensais au fameux livre de Charlotte Bérat sur le rêve sur le troisième Reich, cette présence du nazisme et de la dans le rêve des Allemands, surtout des 300 rêves qu'elle collecte comme ça, cette entrée du politique finalement et du totalitarisme dans l'activité onirique. Est-ce qu'il y a eu d'autres grands événements, j'élargis un petit peu, est-ce qu'il y a eu d'autres grands événements politiques comme ça dont on peut repérer la présence dans l'activité onirique? Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, a continué de diffuser? Est-ce que dans l'activité onirique des acteurs sociaux? C'est une question que
je... Il y a Alors, d'une part, il y a les rêves concentrationnaires qui ont été étudiés, j'ai un truc de mémoire, mais c'était un très bel article.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, qui était extrêmement intéressant. Alors, je trouve le nom, c'est terrible ça.
Oui, c'est vrai qu'on va le retrouver.
Mais laissons. Mais par exemple, et pendant la Première Guerre mondiale aussi, tu as des poilus rêveurs, tu vois, qui Étienne Tanti, par exemple.
C'est extrêmement.
Et il a des rêves de guillotine aussi. Les rêves de guillotine, ce sont vraiment.
Traverse la Grande Guerre.
Mais il est. Dans un rêve de guillotine, il fait un rêve de guillotine et il le partage. C'est dans ses lettres aussi, les rêves sont partagés, tu vois. On partage les rêves. C'est un peu comme là, tu vois Madame Millot qui raconte, qui dit comment elle rêve. Donc c'est aussi un élément de partage. C'est-à-dire que le rêve est à la fois un phénomène privé et en même temps partagé et qui peut, en même temps, je dirais.
Alors, je repose ma question, est-ce qu'aujourd'hui les gens partagent leurs rêves?
Eh bien, oui, tu as des...
Vous qui les notez, à ma grande surprise, vous les partagez?
Non.
Oui, tu partages tes rêves?
Tu racontes, par
exemple. J'ai rêvé d'un truc un soir. Oui. Et le moment auquel on se souvient est intéressant aussi. Un moment dans nos journées.
Un truc revient.
C'est extrêmement évanescent, en fait. C'est surtout au réveil, parfois... avec son ou sa compagnon, j'ai ça pour essayer de fixer, mais c'est... Mais est-ce que du coup cette réflexion et cette activité qui se situe, que vous mentionnez dans un environnement scientifique, le philosophe percolait tout aussi largement dans la population, c'est que c'était un objet de roman, de discussion, au-delà de la réflexion scientifique. Est-ce qu'il y a une forme de curiosité sur ce truc
Je pense que le 19e siècle, c'est le moment. Enfin, c'est quand même, et là, il y a quelque chose de nouveau au 19e siècle, qui est qu'il y a des gens, généralement des hommes et des savants, qui s'intéressent aux rêves d'un point de vue psychologique, médical, et qui essayent d'en comprendre les mécanismes. Ça, c'est quand même quelque chose... Alors, c'est déjà peut-être préparé au XVIIIe siècle, mais là, ce qui est quand même nouveau, c'est ça. Donc, on se fait des recueils d'exemples, on tient des petits journaux de rêve, etc. Ça, c'est très important. Alors, après, ça ne touche évidemment qu'un petit monde de médecins, de savants et d'amateurs cultivés de rêves. C'est-à-dire que je pense que les livres beaucoup plus lus à l'époque, au 19e siècle, c'est les Clés des songes.
Hein. Mais est-ce qu'il y a une production romanesque autour
de... Bien sûr, oui. Le rêve est un thème romanesque. On trouve des récits de rêves dans beaucoup de romans.
Chez Huysmans,
oui, Huysmans,
notamment. Oui, dans le rêve,
bien sûr.
Oui.
Et le...
S'il y a un robot,
il y a un rêve. Est-ce que le... Et alors, quel est le discours des neurosciences aujourd'hui sur le rêve? Tu peux nous synthétiser un peu ça? Parce que
Alors, si tu veux...
Quels sont les points qui semblent se dessinait. Alors,
il y a un point que Jouvet, Michel Jouvet, qui était donc un neurophysiologiste lyonnais, lui, il pensait que les rêves avaient lieu dans une phase très particulière du sommeil, qui est le sommeil paradoxal. Bon. Et puis, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. C'est-à-dire qu'on rêve tout le temps. Et alors, bien sûr, on rêve beaucoup dans le sommeil paradoxal, et en général, dans le sommeil paradoxal, on a des rêves plus précis, tu vois, et dont on se souvient mieux. Mais si on réveille quelqu'un quand il n'est pas dans le sommeil paradoxal, eh bien, on peut avoir un récit de rêve. Donc ça, tu vois, donc du coup, ça remet en cause un peu ce que Jouvet avait dit. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant, enfin comme ça, je suis pas une grande spécialiste hein, de ce que dit la neuroscience et de ce que
dit la neuroscience. T'as forcément un œil dessus.
Oui, j'ai un œil dessus, absolument. Et en fait, par exemple, on ne sait pas très bien expliquer pourquoi il y a des gens, c'est une question toute bête, mais il y a des gens qui se souviennent de leurs rêves et d'autres qui s'en souviennent beaucoup moins. Alors il y a différentes hypothèses là-dessus, tu vois, je lisais, je révisais un peu. Et donc, en fait, on ne sait pas. On a différents critères, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Et puis, alors, ce qu'on ne sait pas non plus aussi, c'est par exemple de quoi on se souvient la nuit. C'est-à-dire, on se souvient peut-être de très peu de rêves de la nuit. Parce qu'on a un peu cette intuition-là, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Et on ne sait pas très bien non plus aussi, parce quelle est exactement la fonction biologique du rêve. C'est-à-dire qu'il y a différentes hypothèses, hein, c'est pas.
Parce que les animaux.
Oui, on partage certainement avec les animaux le fait de rêver. Ce qui est propre, à mon avis, à l'homme, c'est qu'il socialise ses rêves. C'est-à-dire qu'effectivement, il les raconte, il en fait thème de religion, il en fait thème de science, etc. Et ça, c'est les chats ne se racontent pas leurs rêves, bien que ce soit probablement des grands rêveurs. peut-être qu'on saura qu'ils sont quand même...
Est-ce qu'on arrive à catégoriser, ou est-ce qu'on arrive en tout cas à l'époque, dans la production de l'époque, des rêveurs angoissés, des rêveurs cyniques, ou est-ce qu'on dit les gens, suivant les humeurs, suivant ce qui s'est passé dans la journée, les rêves ont telle ou telle typologie? Ou est-ce qu'on dit il y a des gens qui vont systématiquement avoir une production onirique de type d'angoisse, de chute, de je ne sais quoi?
Oui, alors il y a les rêves récurrents. Il y a plusieurs choses. Moi, ce qui me frappe au fond, c'est que quand je lis des choses sur les rêves actuellement, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites au 19e. C'est-à-dire, par exemple, là, il y a des gens qui ont des rêves avec la conscience de rêver. Il y en a qui n'en ont pas.
Aussi le rêve en couleur, parce que j'ai remarqué ce premier rêve était un rêve en couleur.
Oui.
Et on disait, les gens qui rêvent en couleur, c'est les gens clairvoyants, etc. C'est tout le monde rêve pas en couleur.
Donc il y a ces questions-là. Il y a aussi les gens qui rêvent beaucoup, qui du moins se souviennent de leur rêve beaucoup, parce que quand on réveille quelqu'un, souvent on a un rêve. Donc on ne sait pas très bien, au fond... C'est pas très bien. Ce que je dirais quand même, c'est que ce qui apparaît au 19e, donc c'est l'idée qu'il faut noter les rêves et essayer de les étudier et de les noter avec toutes les questions que ça pose, la notation des rêves, parce que c'est quelque chose de, au fond, de très, très aléatoire. Et par exemple, les rêves de Maurice sont remis en cause à la fin du 19e siècle. Maurice raconte, peut-être, ah oui, je dois raconter. Maurice est le grand auteur sur les rêves au 19e, Alfred Maurice, donc. Et en fait, Alfred Maurice, il y a un rêve très très célèbre, donc c'est-à-dire que dans ce rêve, il se voit en train d'aller à l'échafaud, il est jugé par le petit qui est un ville, il va à l'échafaud. Et ensuite, il est guillotiné et donc la barre qui est au-dessus de son lit lui tombe sur le cou et c'est ça qui donc crée la sensation de guillotine. Et donc en fait, ce rêve qui est raconté par Maury de façon très très comment dire oui très très rationnelle en un sens, il est remis en cause à la fin du 19e siècle. Parce qu'on dit c'est un rêve trop beau pour être vrai, trop cohérent.
Oui.
Donc, et on se pose à ce moment-là la question du récit de rêve.
Comment on l'écrit ?
Comment on l'écrit ? Ce qui est une question que se poseront les écrivains ultérieurement, ce que se poseront les surréalistes. Et au fond, il y a deux manières de raconter les rêves. Ou bien on les raconte une espèce de notation télégraphique, un peu comme ce que fait, ouais. Comme ce que fait ici.
Très sec, oui.
Très sec. Ou bien au contraire, et c'est déjà comme ça au 19e, ou bien on le raconte un peu en brodant autour et en brodant. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est ça le rêve. Je ne sais pas.
Et quel est l'apport des surréalistes particulièrement dans un récit de rêve et dans l'intérêt porté au rêve, cette fois artistique, littéraire, et enfin, tu vois. Est-ce que je dirais qu'il y a un apport particulier de ce point de vue-là, dans la manière d'appréhender l'objet et de s'en saisir?
Ben, Breton, il s'est saisi de tous les auteurs de cette tradition-là. Vous connaissez bien Maury, vous connaissez bien Hervé de Saint-Denis. Alors, il a surtout repris quand même Freud. Et parce que Freud a fait un historique très, 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 très étendu et très extensif au début de l'interprétation du rêve. Donc je pense que Breton s'appuie beaucoup sur Freud.
Oui, sur Freud.
Il a fait un cahier.
Il connaît les autres auteurs.
Il a au moins, dans sa bibliothèque, il y a au moins Maury et il y a au moins Hervé de Saint-Denis.
Ouais.
Voilà, tu vois. Et Hervé de Saint-Denis, il l'a lu, puisque dans les vases communicants, il commence par Maury.
Ouais.
Et donc il est. Oh merci, c'est gentil. C'est du champagne de rêve.
Oui,
c'est un rêve.
En fait, il n'existe pas ton champagne.
Mais c'est
ça. Tu vas te réveiller.
Mais est-ce que dans la littérature qui est piétiste de l'époque et de tout ça, parce que finalement c'est cette période, la fin du XIXe siècle, une période. Toute cette littérature subtilisée, de ce point, est-ce que le religieux s'empare du rêve et l'interprète de la
rêve? Alors, bonne question, mais là, c'est extrêmement. En fait, moi, j'ai regardé un tout petit peu les dictionnaires de théologie morale de l'époque, enfin, qu'est-ce qui est dit sur les rêves? Et en fait, on se méfie beaucoup des rêves.
À cause des effets.
Alors, à la fois, il faut quand même dire qu'il y a des rêves prémonitoires. Parce qu'il y a la Bible, mais en même temps, en fait, voilà, on s'en méfie dans la littérature officielle. Donc, je dirais dans les dictionnaires de théologie morale, de casuistique, etc. Enfin, on a un petit peu regardé ça. Mais ce qui m'avait frappé aussi, c'est, alors au 19e, hein, je ne sais pas, c'est une certaine indulgence par rapport à la question des rêves érotiques. Et pourquoi ce qui m'avait frappé, en fait, c'est que, de fait, les rêves érotiques, c'est la seule sexualité que puissent avoir les curés catholiques.
En théorie, oui.
En théorie, oui. Non, mais... Bah, oui, tu vois. Donc, du coup, ça leur pose un vrai problème. Bon. Et non, mais je schématise un peu en disant ça. Et du coup, ils sont assez indulgents par rapport à la question des rêves érotiques. Moi, c'est ce qui m'a fait. Tu vois, bah, oui, parce que. Et en plus de ça, ils sont indulgents aussi, puisque les curés, c'était les curés catholiques, enfin les catholiques, enfin les clercs catholiques, ils reçoivent des confessions. Donc ça, quand même, c'est des tentations.
Ça
alimente. Donc, alors il y a toute une théorie assez subtile qui consiste à dire qu'il ne faut pas consentir, en quelque sorte. Mais n'empêche que tu ne peux pas t'empêcher.
Oui.
D'avoir des rêves érotiques. Et l'autre question, évidemment, c'est celui des rêves érotiques des femmes qui sont, au fond, les médecins. Et j'avais regardé les dictionnaires de théologie morale et les dictionnaires médicaux, et en fait, ils ne savent pas trop qu'en faire. Cette question de est-ce que les femmes ont des rêves érotiques? Parce que pour eux, rêve érotique est quand même lié à c'est une spermatorée, c'est-à-dire. perte de sperme. Alors, pour les femmes, c'est pas très bien, on sait pas très bien où est là.
Oui.
Voilà.
Ça marche pas.
Ça marche pas vraiment. Et c'est assez. Donc, tu vois, voilà. Et donc, dans le contexte religieux, j'ai l'impression qu'il y a. Ça n'a pas été du tout étudié. Moi, j'avais un peu posé la question à mon collègue d'histoire de religion, tu vois. Et en fait, moi, j'ai regardé juste les dictionnaires théologie morale, les dictionnaires de casuistique, etc., ou la question des rêves impurs, ou la question des rêves, et puis les rêves superstitieux aussi. Parce que, bah oui, il y a... Voilà. Je ne sais plus pourquoi je disais ça.
Dans la phrénologie, il n'y a pas une bosse des rêves, ou il n'y a pas une zone
Non, je ne pense pas, mais il faudrait... Alors là, je n'ai pas étudié, hein, donc, mais il faudrait regarder, peut-être que... Je sais, mais je ne crois pas.
Parce qu'il y a pas mal de rêves dans... Ah, ce n'est pas du tout du religieux, c'est quand même c'est dans le Lourdes de Zola.
Oui.
Il y a plusieurs personnages rêvent de manière... en tout cas, sont largement...
Oui, ben là, ça pose la question du rêve, je dirais, du rêve littéraire, puisque il y a beaucoup de récits de rêve dans la littérature. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'est de ne pas refaire sur les rêves littéraires, mais plutôt de m'intéresser vraiment au moment où le rêve devient un objet savant. Et où on étudie à partir de ses propres exemples.
Et tu trouves donc que les questions que posent les savants du 19e aux rêves et à leurs propres rêves sont au fond des questions qui n'ont pas été complètement dépassées aujourd'hui par les neurosciences.
Ben non.
C'est surprenant compte tenu de l'incroyable développement des neurosciences contemporaines.
Mais attends, on accorde beaucoup trop, enfin à mon avis, beaucoup de confiance aux neurosciences. Mmh. Et je pense que. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas des avancées, mais ce qui m'a frappé en lisant, je relisais justement ce matin, oui, puisque je voulais un peu réviser pour ce topo, et je relisais un peu donc, des articles de collègues en neurosciences, et ce qui me frappait, c'est que, par exemple, la question de pourquoi y a-t-il des gens qui rêvent, qui se souviennent beaucoup de leurs rêves et d'autres pas, ben, finalement, ils ne savent pas trop répondre, par exemple, tu vois. Et puis, de toute façon, quand même...
Non, mais ce que tu dis sur le fait que ça repose encore sur le témoignage...
Ah ben oui, en grande partie.
On ne peut que réveiller les gens en disant qu'est-ce que
vous avez.
Ah oui, effectivement, le matériau reste assez artisanal.
On peut matérialiser en neurosciences l'activité onirique dans le cerveau.
On peut voir des zones du cerveau. On ne peut pas dire de quoi...
On voit des zones activées.
Voilà, ben oui, bien sûr. Tu peux dire qu'il y a des zones activées, mais tu vois, c'est même plus comme le sommeil paradoxal, puisque... C'était trop beau le sommeil paradoxal du temps que je jouais. Il y avait une phase du sommeil, donc...
Qui était réservée au rêve.
Voilà, qui était réservée au rêve. Eh ben non. Eh ben,
on rêve... Et qui durait une minute en plus,
On rêve tout le temps. On rêverait tout le temps, mais peut-être pas tout le temps. Et c'est une question qui était déjà posée au 19e. Est-ce qu'on rêve tout le temps? Eh bien, voilà. Et après... bah oui... Je ne vais pas dire qu'on a... Alors, sur le sommeil, on a beaucoup avancé. Je crois que c'est différent.
Oui, c'est sur le sommeil.
C'est sur le sommeil.
Sommeil, exact.
Je crois que là...
Le rêve en tant que tel, en tant que... regarde son mystère. C'est entre le 19e siècle et maintenant.
Et on ne sait pas du tout quelles, par exemple, les fonctions du rêve.
À quoi ça sert?
Je vous le disais, c'est une sorte de reprogrammation de l'individu.
Oui.
Mais maintenant... Il y a même des neurologistes qui disent, au fond, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais il y en a qui disent ça.
Oui.
Mais en même temps, il y en a qui disent, c'est reprogrammer les émotions. Alors, il y a des expériences qui sont faites là-dessus. C'est pas avec moi. Mais en gros, par exemple, l'hypothèse de la croix, là, qui disait, au fond, il y a des désirs, des craintes, etc., elle pourrait tout à fait être prise actuellement par un scientifique. Ce serait dit autrement, hein, je suis...
Oui, bien sûr, c'est ça.
Ce serait dit autrement, mais... voilà.
Et du coup, je voulais en profiter pour revenir à Delacroix qui fait vraiment ce travail de scientifisation du rêve. Mm-hmm. On voit qu'il essaye.
Il n'est pas le premier. Hein.
Oui, bien sûr, mais il s'inscrit vraiment dans une sorte de mouvement où on construit scientifiquement l'analyse du rêve, donc en essayant de trouver un langage commun, en essayant de faire de la retranscription dès qu'on se réveille, donc comme un sas de légitimité, en fait, c'est le moment du réveil. Est-ce que du coup les rêves plus anciens n'ont pas été écrits, au moment du réveil, mais dont on se souvient parce qu'ils nous ont marqué, est-ce que ces rêves-là ont une légitimité ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout cités par ces auteurs? Les rêves d'enfance, par exemple.
Je pense qu'un rêve est forcément lié à une écriture du rêve.
Ouais.
Et à aussi une représentation. Donc du coup, je crois que c'est un petit peu difficile de faire de l'histoire rétrospective par rapport, mettons, au récit de rêve au Moyen-Âge, même si, bien sûr, il y a des références au rêve, mais il faut être, je crois, assez prudent. Hein. Mais voilà.
Dans l'iconographie, dans l'histoire de l'art, comment on... Il y a déjà des choses.
Ah, bah oui, bien sûr.
Mais comment on fait alors
Il y a souvent le dormeur. Et il y a déjà, par exemple, là, en ce moment, il va paraître bientôt, tiens, je vais faire de la publicité, un numéro de romantisme, ça s'appelle Rêver au 19e, et donc que j'ai coordonné. Et donc, en fait, il y a un article extrêmement intéressant de Ségolène Lemel qui montre comment, à l'époque romantique, donc on figure le rêve dans des nuages. Il y a une iconographie très très intéressante, qui alors je ne sais pas si on le ferait comme ça actuellement. Et il y a aussi, alors on pourrait parler des rêves au cinéma aussi. Donc c'est vrai qu'il y a bien sûr tout un aspect esthétique, esthétisation du rêve, mais esthétisation ou pas, je ne sais pas, parce que après tout, le style télégraphique est peut-être pas...
C'est plus près du rêve
qu'est-ce qui est le plus près du rêve?
Qu'est-ce qui est le plus près du rêve
et qu'est-ce qui est le plus près de ce qui se passe? À partir du moment, je crois, où on se réveille, où on note son rêve d'une façon ou d'une autre,
on le trahit.
Oui, je ne sais pas si on le trahit, en tous les cas, on le socialise. On le socialise et on le partage potentiellement avec quelqu'un. Avec un autre humain, même si c'est pour soi-même. Hein. C'est pas du tout... on peut très... c'est comme qui dirait, un journal intime, on le partage à partir du moment où on l'écrit.
Oui.
Voilà, c'est...